Bulbe.
RFI, il est 3h en temps universel, 4h à Paris, 5h à Bucarest.
Mathis Limano.
La Roumanie et cette surprise au premier tour de la présidentielle. Le dépouillement est quasi terminé. C'est un candidat pro-russe qui fait la course en tête. De quoi inquiéter le voisin ukrainien. Nouvelle frappe dans la soirée sur Beyrouth. Des colonnes de fumée s'élevaient au-dessus de la capitale. À Gaza, ce nouveau bilan. 44 211 morts dans l'enclave depuis le 7 octobre. Et puis, en fin de journal, on vous parle d'une icône de la littérature sud-africaine. L'écrivain et artiste Breitenbach vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Je vous le disais dans les titres, c'est un séisme électoral qui est en train de se produire en Roumanie. Quasiment tous les bulletins du premier tour de la présidentielle ont été dépouillés. Et en tête, cette surprise, le candidat pro-russe Calin Georgescu, crédité de près de 23% des suffrages devant le premier ministre pro-européen Marcel Ciolacu. Je vous propose d'écouter Sergio Miscoiu, professeur en sciences politiques à l'université de Cluj-Napoca en Roumanie. Et pour l'heure, il souligne surtout la grande défaite du candidat nationaliste Georges Simion, que beaucoup donnaient qualifié au second tour.
La grande surprise est Călin Georgescu, qui a raflé les voix de Georges Simion, pressenti depuis des lustres comme deuxième homme de cette élection. Donc c'est surtout une guerre fratricide qui nuit à une frange plus installée. Tout le monde faisait attention à Georges Simion. Les grands partis essayaient de contrecarrer son discours, et alors que entre-temps, Georgescu était capable de pénétrer dans les zones plus profondes et plus mécontentes. Donc le combat entre une extrême droite et une droite nationaliste a donné gain de cause à l'extrême droite. La droite nationaliste, notabilisée ou régulière, a un gros problème parce que son candidat arrive très probablement en quatrième position. Et pour l'élection parlementaire qui a lieu la semaine prochaine, le 1er décembre, elle sera en grande difficulté.
Un propos recueilli par Oriane Verdier. Il reste moins de 2% des bulletins à dépouiller en Roumanie, et la présence d'un candidat pro-russe au second tour de la présidentielle inquiète grandement le voisin ukrainien. En effet, ces derniers jours, Călin Georgescu a séduit lors d'une campagne devenue virale sur TikTok. Il a martelé la nécessité de stopper l'aide à l'Ukraine. Kiev, qui continue de demander à ses alliés de nouveaux systèmes de défense anti-aérienne après le tir inédit d'un missile balistique russe jeudi sur la ville de Dnipro. Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs présenté ce dimanche des débris de ce fameux missile baptisé Oreshnik devant un parterre de journalistes. En Uruguay, le candidat de la gauche, Yamandu Orsi, déclaré officiellement vainqueur à la présidentielle. Il l'emporte avec près de 80 000 voix de plus que son rival, le candidat du camp présidentiel, Alvaro Delgado, de centre droit. La victoire de Yamandu Orsi marque le retour de la gauche au pouvoir. Toujours à l'écoute de RFI, il est 7h03 à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où s'est produit un horrible crime. Selon la Maison Blanche, le gouvernement israélien parle, lui, d'un acte odieux de terrorisme antisémite après l'assassinat d'un rabbin dans le pays. Le corps de Zvi Kogan, porté disparu depuis jeudi, a été retrouvé par les autorités. Cet israélo-moldave était l'émissaire à Abu Dhabi d'un mouvement juif ultra-orthodoxe. Ilan est un membre de sa communauté. Écoutez sa réaction.
C'était une très bonne personne. Il aidait tout le temps tout le monde au sein de notre communauté. Ça a été une grande surprise pour nous, car nous nous sentons en sécurité ici. Comme vous le savez, tout le monde vit en bon camarade et les autorités prennent soin de notre communauté. Donc nous sommes très surpris. Malgré tout, nous n'avons pas peur pour l'avenir. J'ai l'impression que c'est un événement isolé, ce n'est pas comme une bombe ou quelque chose comme ça. Je pense que le gouvernement ici assure notre sécurité, donc nous n'avons pas peur.
Un des propos recueillis par Rebecca Arondel. Abu Dhabi a par ailleurs annoncé 3 arrestations. En un temps record, se félicitent les autorités. Des soupçons pèsent sur une implication iranienne, rapporte l'Orient Le Jour, accusation rejetée par l'ambassadeur de l'Iran aux Émirats. Le pays du Golfe qui a normalisé ses relations depuis 2020 avec Israël. L'État hébreu qui continue sa guerre de plus en plus violente avec le Hezbollah libanais. Nouvelle frappe dans la soirée sur Beyrouth. Plus tôt ce dimanche, des centaines de projectiles ont été lancés vers Israël. Par ailleurs, à Gaza, nouveau bilan des victimes depuis le début de la guerre, 44 211 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Au Pakistan, les autorités décrètent une trêve d'une semaine à Kouram. Ce district du nord-ouest du pays connaît une flambée de violence depuis juillet entre sunnites et chiites. Violences qui ont pris en intensité depuis jeudi. Au moins 82 morts et plus de 150 blessés. Un cessez-le-feu d'une semaine donc accepté par les deux parties, nous dit le gouvernement de la province, et qui permettra un échange de prisonniers et de dépouilles. Ce hashtag, à présent, Stop the Violence, vous l'avez peut-être vu circuler sur les réseaux sociaux. Il est relié à la campagne mondiale contre les violences faites aux femmes. 16 jours d'activisme partout dans le monde. À partir d'aujourd'hui, une période pendant laquelle les ONG redoublent d'efforts pour sensibiliser et dire non à toutes les formes de violences faites aux femmes. En Côte d'Ivoire, le constat reste alarmant. Selon le programme national de lutte contre ces violences, au moins une femme sur trois subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Parmi les plus vulnérables, les travailleuses du sexe, souvent marginalisées, exposées à des abus répétés. À Abidjan, un centre d'aide leur tend la main. Reportage signé Abdoulaziz Diallo.
C'est une première fois difficile pour Laetitia qui franchit le seuil d'Espace Confiance. Ce centre spécialisé dans l'accompagnement des travailleuses du sexe victimes de violences devient son refuge après une nuit de cauchemar. La veille, elle a été violée et battue par un client.
J'ai eu très mal. J'ai crié. Mon gérant est venu. C'est lui qui était censé m'aider, mais il a dit « mais ». Faut lui donner. Tu as l'habitude de te vendre, non? Il a fermé la porte, sinon il est parti.
Des scènes comme celle-ci sont loin d'être rares. En 6 mois, le centre a enregistré une trentaine de cas d'abus similaires. Mais beaucoup de victimes préfèrent se muer dans le silence, comme le souligne Elodie, chargée de sensibilisation au sein du centre.
Quand elles sont violées, c'est dit que c'est à cause de son accoutrement, ou bien c'est parce qu'elle est TS qu'on doit la violer. Donc elle a peur de dénoncer. C'est vrai que tu fais du travail du sexe. Il faut savoir aussi que tu es un être humain, aussi que tu as des droits.
Pour garantir ces droits, Espace Confiance, avec le soutien de l'organisation internationale Soltis, propose un accompagnement complet. Nguessan Kouassi, coordonnateur du projet, explique les différentes étapes de prise en charge.
Si c'est un cas qui nécessite une prise en charge médicale, on va la référer chez le médecin. Si ça nécessite une prise en charge psychologique, on a un psychologue qui est là. On va les accompagner à mieux se prendre en charge. Donc on développe des activités de self-défense qui va leur permettre de pouvoir anticiper les violences.
Cette année, à l'occasion des 16 jours d'activisme, l'accent est mis sur la riposte et la reconstruction après les violences. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Et à l'occasion, ce lundi, de la Journée internationale contre les violences faites aux femmes en France, cette série de mesures qui devraient être prononcées par le Premier ministre Michel Barnier, parmi elles, la possibilité de déposer plainte dans les hôpitaux pour plus de discrétion ou encore une meilleure formation des policiers. On reste dans l'Hexagone, où un Français sur deux prévoit de visiter Notre-Dame de Paris après sa réouverture, selon un sondage réalisé pour La Croix et France Info. Réouverture prévue le 8 décembre, 5 ans après l'incendie impressionnant de la cathédrale, monument emblématique de la capitale française des images qui avait fait le tour du monde. Lui aussi est un monument. Mais de la littérature sud-africaine, l'écrivain et artiste Breiten Breitenbach, il vient de s'éteindre à l'âge de 85 ans. Retour sur le parcours d'un homme qui s'est battu contre l'apartheid avec Catherine Fouchon-Toussaint.
Regard intense, stature élégante, voix profonde, Breiten Breitenbach était une figure majeure de l'Afrique du Sud. Né en 1939 dans la province du Cap, il s'était engagé très jeune dans la résistance clandestine contre les régimes d'apartheid. Arrêté en 1975, condamné à une lourde peine de prison où il commence à écrire, libéré en 1982, il partageait depuis son temps entre la France, dont il parlait parfaitement la langue, l'Espagne, l'Afrique du Sud et l'île de Gorée au Sénégal. Breiten Breitenbach, peintre également, était l'auteur d'une œuvre importante constituée d'une 20aine de publications, romans, essais, nouvelles, poèmes et pièces de théâtre. Parmi ses titres les plus emblématiques, Une saison au paradis, Le cœur chien, L'étranger intime et enfin La main qui chante. De la noirceur à la lumière, l'œuvre de Breiten Breitenbach continuera d'éclairer avec justesse la complexité de la nature humaine.
Catherine Fruchon-Toussaint, et puis du sport pour conclure votre journal du football avec les matchs de ce dimanche soir. En France, Nice intègre le top 5 de Ligue 1 après sa victoire sur Strasbourg 2-1. En Espagne, ce derby basque entre Bilbao et la Real Sociedad, victoire sur la plus petite des marges pour Bilbao 1-0. L'info sur la radio du Monde revient dans moins d'une heure. D'ici là, je vous laisse avec Alexandra Cagnard et Témoins d'Actu, l'émission qui donne la parole aux journalistes de RFI. Il est 4h10 ici à Paris. Merci d'écouter la radio du Monde.